J'ai le plaisir maintenant d'appeler au lutrin Madame Bassler, qui est directrice d'études au CNRS et présidente du conseil du CERN, l'Organisation européenne de recherche nucléaire à Genève. Ce qui ne nous éloigne pas, je pense, d'un certain nombre de techniques dont nous a parlé jusqu'à présent. Et je lui cède dès lors la parole.
Merci beaucoup. Donc, après l'univers de l'archéologie, on passe à l'univers de la big science par excellence, où le CERN est devenu un symbole, certainement aussi grâce à une communication innovante lors du démarrage du LHC ou de la découverte du boson de Higgs, dont vous avez certainement entendu parler. Je vais vous parler donc un peu d'histoire, de recherche et aussi d'innovation au CERN. Et comme le titre est aussi « Quel avenir ?», de vous donner quelques indications de où on est pour penser le futur. Donc, comme c'était déjà dit, le CERN est l'organisme européen pour la recherche nucléaire. Il était fondé en 1954 par 12 pays fondateurs européens. Et je vous ai mis ici la mission qui était donnée au CERN. Donc, l'organisation doit assurer la collaboration entre États européens pour les recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental. L'organisation s'abstient de toute activité à fin militaire et les résultats de ses travaux expérimentaux et théoriques sont publiés ou de toute autre façon rendus généralement accessibles. Vous avez ici donc déjà quelques prémices de ce qui est le travail du CERN. D'une part, donc un travail en recherche fondamentale, et d'autre part, un souci sur la science qu'on appelle aujourd'hui la science ouverte et la publication donc des résultats. Une autre mission qu'il faut souligner pour le CERN, c'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la science pour la paix, et donc d'essayer de favoriser la collaboration entre les pays. Quelques mots sur la création du CERN. L'idée était donc de favoriser la collaboration européenne après la guerre, quand la science européenne était quand même fortement affectée par la guerre, par la destruction, de endiguer la fuite des cerveaux vers les États-Unis, notamment, et aussi de construire des infrastructures qui sont partagées et qui vont au-delà des capacités de chacun des pays. Quelques acteurs dans cette création étaient Louis de Broglie, prix Nobel français, qui était le premier en 1949 à présenter l'idée d'un laboratoire international à la Conférence pour la culture européenne à Lausanne. Isidore Rabi, dont on a parlé déjà ce matin, un autre prix Nobel de physique, qui a poussé pour que l'UNESCO prenne une résolution en 1950 afin d'assister à la création d'un laboratoire pour accroître justement cette coopération internationale. Pierre Auger, autre physicien éminent français, qui était à l'époque directeur pour les sciences naturelles et exactes à l'UNESCO, et quelques pères fondateurs, il n'y avait pas des mères fondateurs à l'époque, européens, donc Amaldi de l'Italie, Niels Bohr du Danemark et des Français et Paul Scherrer des Suisses. Il faut souligner aussi que le CERN, dès le départ, avait aussi une dimension diplomatique. Et ainsi, il faut saluer l'action de François de Rose, un diplomate français qui, ensemble avec Francis Perrin, qui à l'époque était le haut commissaire pour l'énergie nucléaire au CEA, à sillonner l'Europe afin de convaincre tous les gouvernements de s'associer à cette nouvelle aventure qui était le CERN. Le CERN aujourd'hui, c'est 23 États membres. Il s'est agrandi au fur et à mesure des années, notamment après la chute du mur et l'adhésion de beaucoup de pays qui faisaient anciennement part de l'influence soviétique. Actuellement, le CERN a un budget annuel d'à peu près 1,2 milliard de francs suisses. Ce budget est construit à partir des contributions des différents États membres et ils sont calculés en fonction de leur PIB. Donc, le plus riche un pays, le plus il paye, ce qui ne change rien à son poids dans l'organisation, au moins de manière formelle. Chaque pays a une voix, comme c'est souvent le cas dans les organismes internationaux. avec ce budget que fait le CERN, il couvre le coût des infrastructures, donc en particulier des accélérateurs, mais aussi des bureaux, de tout le personnel qui est nécessaire pour accueillir les utilisateurs et de faire fonctionner donc, l'ensemble des installations. Ici, un petit sketch. Donc, le coût du personnel du CERN, c'est à peu près 55%. Ce que vous voyez ici dans ce petit camembert, c'est que le nombre de physiciens qui travaillent au CERN est très faible. C'est 3%, c'est à peu près 70 personnes. La plus grande partie du force de travail du CERN, c'est les ingénieurs, les techniciens, ce qu'on peut aussi appeler les physiciens-ingénieurs ou les chercheurs-ingénieurs. C'est aussi, bien sûr, du personnel administratif qui soutiennent donc toutes les activités des chercheurs. Le CERN a à peu près 2500 employés et, bien sûr, vu son installation à Genève sur la frontière franco-suisse, il y a une grande partie des employés qui viennent de la France, environ la moitié. Avec ces employés, il accueille 14 000 utilisateurs. Donc, vous vous imaginez, ça, c'est les scientifiques qui viennent, en fait, de partout dans le monde pour travailler sur les expériences qui se font au CERN. J'ai aussi indiqué ici les contributions majeures ou principales des États membres. Comme c'est calculé à partir du PIB, on trouve les pays les plus riches de l'Europe qui contribuent le plus, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Ça fait à peu près 50% du budget du CERN. Bien sûr, on entend souvent le CERN, ça coûte cher. La France paye à peu près 160 millions par an au CERN. Mais ici, je vous ai mis un extrait d'un rapport à l'Assemblée nationale qui essayait en 2011 d'évaluer le retour que représente le CERN pour la France. Et on trouve un facteur 3 à 4. Ce n'est pas que les retours industriels, c'est aussi les retours tout simplement de l'implantation, c'est-à-dire tout le personnel du CERN qui vit du côté français, les retraités du CERN qui vivent du côté français, et bien sûr aussi tout le personnel français qui travaille au CERN. Le CERN, de par sa création, a été quelque part une innovation parce que c'était la première fois qu'on créait vraiment un organisme international pour faire de la science à travers de différents pays et il a servi de modèle. Ainsi, par exemple, en 1962, le CERN a inspiré la convention pour l'ESO, le European Southern Observatory, l'organisme d'astronomie et d'astrophysique qui opère les télescopes, notamment au Chili. Ces deux organismes étaient proches pendant très longtemps. Et en 1970, un accord de collaboration était signé entre le CERN et l'ESO parce que la compétence qui était développée au CERN pour construire des grands instruments était également utile aux astronomes. Et jusqu'en 1980, l'ESO avait même ses locaux, son siège au CERN, avant de déménager à Garching, en Allemagne, en vue de la croissance du nombre de personnel qu'il allait accueillir. Un autre émulé du CERN était aussi l'ESA. En 1958, après le choc du Spoutnik, Amaldi et Auger, qu'on a déjà vu dans les pères fondateurs du CERN, avaient émis l'idée que ce serait peut-être utile aussi de créer un organisme à la CERN pour toute la recherche spatiale en Europe, afin de rester compétitif avec les grandes puissances, les États-Unis et la Russie. Et ainsi, un premier organisme, l'ESRO, était fondé en 1964, suivi après par l'ESA, comme on la connaît aujourd'hui, en 1975, qui était l'unification de deux autres organismes. Aujourd'hui, l'époque où on crée des organismes internationaux pour la recherche est un peu révolue. Les États sont devenus beaucoup plus frileux de s'engager à si long terme dans des aventures scientifiques. Néanmoins, il y a encore des nouvelles créations, notamment dans l'idée « science pour la paix ». Et ainsi, on peut parler de SESAME, une source de lumière synchrotrone qui est en Jordanie et qui accueille en fait 9 pays du Moyen-Orient, dont Israël, pour justement essayer de collaborer ensemble autour d'un projet scientifique. Un autre projet qui est actuellement en gestation, ça s'appelle SAIST, il y a une petite erreur d'orthographe, qui est l'idée de construire une facilité de hadronthérapie dans les pays du Balkan, justement dans la même idée d'essayer de mettre ensemble les pays qui étaient en conflit, mais autour d'un projet avec un but commun. Les deux projets étaient initiés en fait par des anciens directeurs généraux du CERN qui portaient cette idée de science pour la paix et aussi de diplomatie scientifique. Maintenant, pour revenir au CERN, l'innovation au CERN. Le CERN s'occupe principalement de la science sur des accélérateurs de particules. Alors, quelques mots sur l'histoire des accélérateurs au CERN. Les toutes premières accélérateurs de particules datent en fait du 19e siècle. C'est les tubes cathodiques qu'utilisait Thomson et qui a permis la découverte de l'électron. Ensuite, la première innovation, c'était de pouvoir faire des accélérateurs circulaires. Et le principe de ces cyclotrons est dû à Ernest Lorentz à Berkeley, à la fin des années 1920, avec un premier cyclotron de 69 cm construit en 1932, qui permettait d'accélérer des protons à une énergie de 5 MeV, et qui était en fait le signe du début des accélérateurs pour la physique des particules. Auparavant, beaucoup de recherches en physique des particules se faisaient en fait à travers des rayons cosmiques qu'on observait avec des émulsions photographiques. Après la création du CERN, seulement trois ans plus tard, il y a le premier accélérateur qui est installé au CERN, le synchrocyclotron. Vous voyez ici une image au milieu, il tenait encore dans une pièce et il était utilisé pour la physique nucléaire jusqu'en 1967. À la fin des années 50, donc ça allait très vite, cinq ans après la création du CERN, on passe à une échelle plus grande, le proton synchrotron, qui est en quelque sorte le premier grand accélérateur. Il avait 630 mètres de circonférence. 100 aimants dipolaires étaient utilisés pour guider les faisceaux et il permettait d'accélérer des protons jusqu'à 25 chev. Cet accélérateur, il faut le souligner, il est encore en fonction aujourd'hui. Il alimente le LHC à travers de tous les accélérateurs historiques qui ont été construits au CERN. Pour utiliser ces accélérateurs, il fallait aussi des détecteurs pour observer les interactions. Et dans les années 50-60, c'était l'ère des chambres à bulles, qui étaient des détecteurs inventés en fait en 1952 par Glasser. L'idée est que vous avez un liquide en surpression, surchauffé, et quand il y a des particules chargées qui passent, ça fait des petites bulles sur leur passage, qu'on photographie ensuite pour voir ce qui s'est passé. Installé dans un champ magnétique, on voit que les particules positives et négatives prennent des différents chemins et ainsi on peut analyser plus en détail les interactions qui avaient lieu. Il y avait plus d'une centaine de chambres qui ont été construites. La plus grande faisait 40 mètres cubes de liquide. Et il y a plus de 100 millions de clichés photographiques qui étaient prises, analysées et distribuées à travers toute l'Europe ou même le monde entier pour comprendre donc la physique et notamment à l'époque la structure des protons. Il y avait une découverte qui était vraiment fondamentale, qui était faite avec ces chambres de bulles, avec une des dernières qui était construite, qui s'appelait Gargamel, parce qu'elle était gigantesque. C'était une chambre conçue par André Lagarrigue, professeur à l'École polytechnique et ensuite directeur d'un grand laboratoire à Orsay, construite à sa clé, comme quoi la collaboration CNRS-CEA, ça fonctionne bien, et qui a permis ensuite, une fois installée sur le PS au CERN, de découvrir les courants neutres, c'est-à-dire une interaction qui est proche de celle faite par les photons, mais avec des bosons, des particules échangées qui sont très massives. André Lagarrigue aurait certainement eu le prix Nobel pour cette découverte, mais malheureusement, il est mort deux ans après sa découverte à cause d'une crise cardiaque. Et donc, cette découverte n'a été jamais récompensée à son juste niveau. C'est les théoriciens qui ont pris ces particules, qui ont eu le prix Nobel quelques années plus tard. Un autre changement fondamental de paradigme, un autre step d'innovation, c'était non pas de juste accélérer les particules de manière circulaire et de les envoyer sur une cible, mais de les faire collisionner et ainsi d'accéder à des énergies au centre de masse, des énergies de ces interactions beaucoup plus élevées avec des machines de la même taille. Le tout premier collisionneur était construit en CERN. Il était en fait à Orsay. C'était un collisionneur électron-positron. Néanmoins, au CERN, on a fait pour la première fois des collisions entre des protons, et cela en 1971. C'était le Intersection Storage Ring, une machine à 300 mètres de diamètre. L'invention primordiale pour pouvoir faire ces collisions entre protons était de trouver un refroidissement, c'est-à-dire de limiter le mouvement des protons entre elles dans ces paquets de protons qui étaient accélérés et mis en collision. Après cette machine, on a commencé à construire en 1972 le superproton synchrotron. C'est un accélérateur qui, pour la première fois, était souterrain, à 40 mètres sous terre, et aussi pour la première fois qui traversait la frontière franco-suisse avec une circonférence de 7 km. Lorsqu'on a construit cette machine, il y a une autre idée qui est venue, c'est-à-dire on pourrait utiliser le même champ magnétique pour accélérer des particules chargées positivement dans un sens et des particules chargées négativement dans l'autre sens. Donc de faire collisionner des protons et des antiprotons ensemble. Avant de pouvoir y arriver, il fallait produire suffisamment d'antiprotons et les accumuler aussi pour avoir après un taux de collision suffisamment élevé. Et pour cela, le antiproton accumulator était développé et les premiers stockages d'antiprotons avaient lieu en 1978. 3 ans après, il y a eu les premières collisions entre protons et antiprotons au CERN. Pour faire face à ces nouveaux collisionneurs, on a continué aussi à développer les détecteurs et un des exemples primordial était l'invention des détecteurs multifil par Georges Charpak en 1968. En fait, on est passé des chambres à bulles qui étaient quand même très lourds et très longs à des détecteurs qui utilisaient des signaux électriques et donc qui étaient beaucoup plus rapides et qui permettaient aussi de voir des tracés beaucoup plus finement. Grâce à ce type de détecteur qui était ensuite installé sur tous les collisionneurs, on a pu découvrir les bosons W et Z, qui étaient les bosons, les particules responsables de ces interactions faibles qu'on a vues par Gargamel. Et vous voyez ici donc, quelques clichés qui étaient pris. Maintenant, ça, ce n'est pas des clichés, c'est en fait les détecteurs qui émettent des impulsions électriques qu'on digitalise après et qu'on fait après un traitement informatique pour la visualisation et l'analyse des événements. Après cette découverte, il y a l'idée qui est venue de construire un accélérateur, un collisionneur encore beaucoup plus grand, justement pour étudier ces phénomènes de physique électrofaible en détail. Et donc, fin des années 1970, l'idée pour un grand collisionneur électron-positron est venue, le LEP, pour faire face justement aux exigences de taux de collision, de précision requises pour faire des études fines et des études de précision dans ce domaine. Pour le CERN, ça représentait une rupture technologique parce que le CERN était plutôt spécialisé dans les accélérateurs à protons et là, il allait construire une machine à électrons. La circonférence prévue pour cette collisionneur était de 27 km avec un tunnel à 100 mètres sous terre. Et c'était le plus vaste chantier européen d'excavation avant la construction du tunnel sous la Manche. On a construit ce tunnel pendant une petite dizaine d'années. Vous voyez ici le président de la République qui s'était déplacé à l'époque pour la pose de la première pierre ou la première pelle qui était excavée. Et il était mis en service le 14 juillet 1989, certainement aussi pour reconnaître les efforts de la France dans sa construction. C'était le jour de la bicentenaire de la Révolution française.
L'accélérateur a pris des données jusqu'à l'an 2000, où il était arrêté lors d'une grande discussion entre les physiciens, parce qu'il a ouvert la chasse au boson de Higgs. Et il y avait certaines rumeurs que peut-être on avait vu le boson de Higgs, etc. Finalement, il y avait juste une limite qui était émise à 115 GeV, qui était donc la dernière limite avant l'LHC. La machine était arrêtée aussi parce qu'on devait enlever en fait le LEP de ce tunnel pour y mettre le LHC et donc pour commencer une autre aventure. Avec ce détecteur, donc, la chasse au boson de Higgs était ouverte. Et ce que je vous montre ici, c'est le papier historique de Peter Higgs, où il a prédit en quelque sorte le boson. Comme avec toute idée nouvelle, bien sûr, ce n'était pas le seul à avoir l'idée. Et à l'époque, il y avait au moins une équipe belge avec Françoise Englert et François Prout qui travaillaient là-dessus, mais aussi une équipe aux États-Unis. Néanmoins, c'était dans la publication de Peter Higgs, dont la première version du papier a été refusée par un prix Nobel, et qui a demandé de faire des prévisions de ce que cette théorie pouvait en fait amener, qu'on a retrouvé donc la prédiction qu'en fait une nouvelle particule devrait voir le jour. Et cette nouvelle particule était appelée le boson de Higgs 2 ans après par un collègue théoricien lors d'une conférence et restée comme ça depuis dans le jargon des physiciens. Ça a pris encore une dizaine d'années avant qu'on commence vraiment à réfléchir comment on pourrait trouver cette nouvelle particule. Et ici, vous voyez la première publication par 3 théoriciens qui réfléchissaient quelle signature une telle particule devrait avoir dans un détecteur des particules. Et ce que je trouve très amusant, c'est ce qu'ils disent dans l'abstract. Nous nous excusons auprès des expérimentateurs, mais nous n'avons aucune idée quelle est la masse du boson de Higgs. Pour cela, nous n'aimerons pas encourager les recherches du boson de Higgs. Bien sûr, c'était un peu ironique, parce qu'ils donnaient quelques pistes comment on pouvait trouver ce fameux boson, et les chercheurs se sont bien mis en route pour le trouver. Le chemin était long avant de trouver ce fameux boson, notamment pour construire le LHC. Et je voudrais d'abord m'arrêter un peu donc, sur la construction de cet accélérateur. Les premières idées du LHC venaient en 1984 lors d'un workshop fondateur de Lausanne. Vous voyez là sur le côté les actes de ce colloque, où on imaginait encore d'avoir le LHC dans le juste construit au-dessus du LEP et d'avoir les 2 accélérateurs même en fonctionnement ensemble. La recherche et le développement de comment il fallait construire cette machine a fait que ce n'était pas possible parce que finalement le LHC prenait trop de place dans le tunnel et il fallait donc enlever tout le LEP. Après ces premières idées, il fallait encore attendre 12 ans avant que les gouvernements et le conseil du CERN étaient prêts à dire « on approuve ce projet et on commence à le financer, à le construire ». Il fallait encore attendre plus de 10 ans avant que la construction ait été terminée et les premiers faisceaux ont circulé dans la machine. Vous vous rappelez certainement aussi que quelques jours après, il y avait un incident dû à une connexion électrique fautive qui a fait qu'il y avait un réchauffement du hélium qui est utilisé pour refroidir les LHC, qui a donné une sorte d'explosion à l'intérieur du tunnel. Et il fallait 1 année pour remettre tout ça en route. Et donc, en 2009, finalement, les premières collisions étaient enregistrées. Les chiffres qui sont liés au LHC sont gigantesques. Pour le construire, il fallait plus de 100 000 hommes ans dans le monde académique, des physiciens des particules, mais aussi les spécialistes des accélérateurs dans les universités, dans les laboratoires, entre la conception et le démarrage de cette machine. Ils ont produit plus de 1 million de notes techniques qui étaient revues par les divers comités qui accompagnaient tout le projet. Et des collaborateurs d'instituts, de partenaires industriels de plus de 50 pays étaient impliqués dans la construction. Qu'est-ce qui était innovant avec les LHC? Déjà, il y avait plus de 1200 aimants supraconducteurs avec un champ magnétique très élevé qui ont dû être conçu, construit, installé, testé. Ces aimants sont nécessaires pour guider les protons lorsqu'ils tournent en rond, mais aussi pour focaliser les faisceaux avant qu'ils puissent interagir. On a regardé quel était le temps de développement et de construction pour ces aimants, et il fallait 25 ans. Et ça donne aussi une échelle pour toute future machine où on voudrait même utiliser des nouveaux matériaux et donc où il faut encore tout un temps avant pour maîtriser ces matériaux et les amener à un état industrialisable parce que, bien sûr, il faut industrialiser les processus si on veut construire une telle machine. En total, il y a plus de 10 000 aimants supraconducteurs qui sont installés dans le LHC. Et si on dit supraconducteur, on dit refroidissement, parce que la supraconductivité avec les matériaux utilisés est atteinte juste à des températures de 1,9 Kelvin, donc à moins de 171 degrés Celsius. Ce qui veut dire qu'il faut construire un système de cryogénie qui produit un froid plus froid que le froid intersidéral. Il y a 150 tonnes de hélium superfluide qui sont utilisées, ce qui représente à peu près un quart de la production mondiale en hélium. Pour que les particules circulent dans l'accélérateur sans interagir avec les gaz résiduels, il faut faire un vide qui est un vide de 10⁻³⁰ atmosphères, c'est-à-dire c'est un vide plus vide que l'espace interplanétaire. C'est une pression qui est 10 fois plus faible de ce qu'il y a sur la Lune. En plus, il faut un système de protection des aimants et des équipements qui est ultra sophistiqué et ultra fiable, parce que l'énergie qui est stockée dans les aimants est de à peu près 11 gigajoules. Donc c'est l'énergie d'un Airbus A380 à 700 km/h. Et quand vous pensez qu'il y a le moindre pépin et il faut évacuer cette énergie dans une dizaine de secondes, ça vous donne une dimension de ce qu'il faut comme maîtrise sur ces machines et sur la fiabilité des diagnostics qu'il y a autour. Un mot sur le coût du LHC. Le coût total du LHC est chiffré à environ 4,6 milliards de francs suisses. On ne compte pas le coût de la main-d'œuvre, c'est juste le coût de l'investissement. Ce que je vous ai mis dans la figure là-haut à gauche, c'est en fait le coût spécifique des différentes installations à partir du proton synchrotron donc, qui était construit dans les années 60 jusqu'au LHC en fonction de l'énergie que ces machines ont produit. Et ce qu'on voit, c'est en fait que ce coût baisse. C'est-à-dire la construction et le financement du LHC n'étaient possibles que parce qu'on a appris à industrialiser les processus, à développer des technologies qui étaient économiquement plus viables, qui étaient moins chères, et qu'on a fait une immense travail sur la coopération avec les industriels qui étaient impliqués dans le projet. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour la France ? En 1995, c'était François Fillon qui a accordé une contribution exceptionnelle de la France pour la construction du LHC. Comme la France est un État hôte et a beaucoup de retours, cette contribution exceptionnelle était attendue en quelque sorte par les autres États membres, ce qui est tout à fait normal. Cet argent était utilisé pour quoi faire ? Déjà, il a permis de financer les développements au CEA et au CNRS qui ont permis de développer les aimants pour le LHC. Ces développements ont été faits, bien sûr, avec des industriels français. Et à la fin, il y a plus de 62 contrats de plus d'un million de francs suisses qui sont revenus dans l'industrie française. Et au total, l'industrie française a eu des contrats pour la construction du LHC d'à peu près 650 millions de francs suisses. C'est-à-dire l'investissement du départ comme contribution exceptionnelle était en fait multiplié par 10 quand on regarde les contrats qui ont fini dans l'industrie française. Comment ça se passe, l'innovation au CERN et la relation entre le CERN et les industriels ? Bien sûr, la principale interaction entre le CERN et l'industrie, c'est autour des achats. et de la R&D qui est faite en commun entre le CERN et les industriels. Dès 1975, il y a eu des études qui étaient faites sur l'utilité économique des grandes infrastructures de recherche et du CERN en particulier. Et il y avait des modèles qui ont été développés pour comprendre les mécanismes entre la big science et l'industrie. Certainement aussi parce qu'il fallait quand même justifier l'utilité de ces installations pour le coût qu'ils demandent aux différents gouvernements. Ce qui est sorti de ces études est surtout que le cycle d'innovation entre les infrastructures et l'industrie fonctionne parce qu'il y a un certain nombre de motivations communes entre le monde académique, les gouvernements et les industriels. La prime motivation est bien sûr le développement des hautes technologies et ceci dans des budgets limités. Ça, c'est un intérêt qu'ont aussi bien les industriels que les grandes infrastructures de la recherche. Un autre point, c'est que les entreprises essayent de trouver des environnements où ils peuvent développer, tester et valider les prototypes. Et les infrastructures, souvent, leur offrent justement cet environnement avec en plus du personnel hautement qualifié. Ce qui était identifié comme la meilleure base pour débuter des collaborations sont les relations informelles qu'il y a entre les experts techniques qui partagent le même langage, qui partagent le même raisonnement. Et pour avoir des relations profitables entre un industriel et une infrastructure de recherche, on a vu que ça marchait le mieux lorsque les entreprises avaient effectivement une stratégie et des buts à long terme et n'étaient pas sur des considérations économiques court-termistes. Les retombées de l'innovation et des connaissances entre les infrastructures et les industriels se passent en général à travers des processus d'apprentissage interactif entre les partenaires dans des relations mutuelles. C'est-à-dire, à la fin, il y a quand même les gens qui se rencontrent et qui veulent travailler ensemble sur un projet, quoi. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Où est-ce qu'on est aujourd'hui avec les transferts des connaissances? En 2017, il y a 2 ans, il y a différents champs qui étaient identifiés au CERN où on peut continuer à faire du transfert de technologies. Il y avait 73 technologies qui étaient identifiées. Et vous voyez ici les différents regroupements qui vont, bien sûr, de l'instrumentation autour des accélérateurs, jusqu'à la superconductivité. Et de l'autre côté, les différents champs, disons plus sociétal, où toutes ces technologies peuvent trouver des applications, le médical, l'aérospatial, la sécurité, le culturel, comment on dit, le patrimoine, et des technologies émergentes. Ce qui est très important aussi dans ces transferts de connaissances, comme c'est le contact entre les gens qui prévaut pour que ça marche, c'est de créer des événements où les gens peuvent se rencontrer. Et pour cela, différents événements sont organisés dans les pays membres avec des participants à des séminaires et ainsi de suite. Par ailleurs, il y a cette année un nouveau programme qui a aussi commencé, le programme ATTRACT, qui est en fait un programme européen porté par le CERN, dans l'idée d'aller de la science ouverte à l'innovation ouverte. Et un appel d'offres a été lancé pour sélectionner 170 projets pour un budget total de 17 millions d'euros pour leur financer une sorte de démarrage, le seed money, pour qu'ils précisent leurs idées pendant une année et ensuite un écrémage serait fait d'un facteur 10 en fait pour voir quelles étaient les idées les plus prometteurs pour continuer. La sélection de ces projets vient d'être terminée et juste pour vous montrer l'attrait de ce programme, plus de 1200 propositions ont été reçues en quelques mois. Des idées qui ont été émises par les différents acteurs. À quoi servent la physique fondamentale? Bien sûr, à faire de la science, et je pense que ça va toujours rester le but premier. Néanmoins, on a aussi quelques applications des développements technologiques qui sont utilisés dans la vie de tous les jours, on peut dire. Toute première, les accélérateurs de particules. Dans le monde, il y a environ 30 000 accélérateurs des particules. et seulement une vingtaine, en fait, sont utilisées en recherche fondamentale, en physique nucléaire et en physique des particules. 17 000 accélérateurs des particules sont utilisés aujourd'hui, notamment en médecine. Un exemple où ils sont utilisés, c'est par exemple l'hadronthérapie, c'est-à-dire on utilise des faisceaux de protons ou de carbone sur des tumeurs, notamment des tumeurs du cerveau ou des tumeurs de l'œil. Et dans le monde, il y a 100 000 personnes qui ont été déjà traitées par cette méthode. En Europe, 50 000, la moitié, certainement aussi parce qu'il y a une grande savoir-faire autour de ces technologies en Europe. Un autre exemple, c'est les aimants. Donc, pour le LHC, on a dû développer des aimants à très haut champ. Actuellement, on teste des nouveaux matériaux supraconducteurs, le niobium 3-tin, avec lequel on a pu atteindre des champs de 13 à 14 Tesla. Mais ces grandes aimants sont aussi utilisés en IRM, dont on a déjà entendu parler ce matin. Et à Neurospin à Saclay, il y a actuellement un aimant construit par le CEA de 11.7 Tesla qui est installé pour faire de la IRM. Et vous voyez ici en bas comment la résolution des images augmente lorsque le champ magnétique augmente. Et on peut effectivement voir les structures du cerveau avec une précision absolument époustouflante. Bien sûr, 12 Tesla, c'est un champ magnétique assez fort. Et je pense qu'avant qu'on mette des humains là-dedans, il y aura un certain temps qui va s'écouler parce qu'il semblerait que sur les singes, quand ils en sortent, ils sont un peu abasourdis et ils ont besoin d'un certain temps pour s'y retrouver. Une autre application, les détecteurs des particules eux-mêmes. Donc, on est passé des détecteurs à multifils de Charpak à aujourd'hui beaucoup de détecteurs à base de silicium qui sont beaucoup plus rapides avec des résolutions spatiales beaucoup plus élevées et aussi une électronique de lecture des chips avec des performances ultra rapides. Ces technologies sont utilisées dans la tomographie électron-positron. Vous voyez une image ici en bas. Et vous voyez aussi une image de la première radio 3D qui était obtenue grâce au développement des chips qui étaient faits entre le CERN et des laboratoires dans les États membres, où on peut maintenant reconstruire à partir des radios l'image intérieure 3D d'un bras humain, par exemple, mais aussi de toutes les autres parties d'un corps. Une autre application, c'est le développement du calcul. Traiter les données du LHC est un grand chantier. Je vais en dire quelques mots après encore là-dessus. Vous savez que en début des années 1990, c'est au CERN qu'on a inventé le principe du HTML et des protocoles HTTP pour construire toutes les pages web qu'on utilise maintenant tous les jours. Il faut dire aussi que ce développement a été fait par un chercheur en informatique, était qualifié de intéressant mais un peu brouillon à ses départs. Et une fois que ça commençait à prendre son essor, la question s'est bien sûr posée, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ce qui est en principe brevetable ? Et là, la direction du CERN s'est référée à la convention qui disait, bien sûr, comme je vous ai dit tout au départ, que tout ce qu'on fait au CERN doit être accessible à tout le monde et donc aucune propriété intellectuelle était réclamée sur les résultats de ces développements et s'était mis au service de l'humanité. Pour le bien et pour le mal, ça, l'histoire va nous dire. Pour le traitement du LHC, on a développé des grilles de calcul qui sont en fait des ordinateurs distribués à travers le monde et liés entre eux. Et bien sûr, ces grilles de calcul ne sont pas juste utilisées pour la physique des particules, elles sont aussi utilisées dans d'autres domaines, le biomédical, l'environnement, même les sciences humaines. Et aujourd'hui, les prochains défis qui sont à l'horizon, c'est le calcul quantique, l'intelligence artificielle, bien sûr aussi, mais en quelque sorte, la discipline utilise déjà des méthodes d'intelligence artificielle dans son traitement de données depuis un certain temps. Alors, les détecteurs du LHC. Vous connaissez peut-être ces photos iconographiques des grands détecteurs Atlas et LHC et CMS. Je dois vous dire, à chaque fois que je les vois, je suis impressionnée. Atlas fait 46 mètres de long, 25 mètres de diamètre, il pèse 7000 tonnes. Néanmoins, avec la dimension, si vous faites le calcul, si vous mettez une peau autour, il flotterait dans l'eau. CMS, par contre, c'est un géant lourd. Il fait 21 mètres de long, 15 mètres de diamètre, mais il pèse le double. Donc lui, pour flotter, non, il n'y a aucune chance. Chacun de ces détecteurs a à peu près 100 millions de canaux de lecture pour tracer donc le chemin des particules. Il y a 3000 km de câbles électriques qui sont utilisés pour alimenter, lire les signaux et ainsi de suite. Vous imaginez l'effort que ça a été pour les tirer. Lorsque les LHC en fonction ont produit à peu près 1 milliard de collisions par seconde qui sont vues par ces détecteurs, et à la fin, il y a tout un système d'écrémage qui fait qu'il y a juste 200 de ces collisions par seconde qui sont enregistrées sur des bandes afin de garder que les interactions les plus intéressantes. À peu près 2,4 bosons de Higgs sont produits tous les minutes, ce qui vous donne aussi une idée de la recherche dans ce grand volume de données pour trouver ces particules. Pour cela, donc, on utilise, comme je vous ai déjà dit, des grandes fermes de calcul distribuées à travers le monde. Il y a 10 grands centres qu'on appelle du tir 1, dont un se trouve à Lyon. Et quand on regarde aujourd'hui le volume des données qui étaient produites par les LHC, on parle de 330 pétaoctets. Ça correspond à peu près à une vidéo HD qui dure 2000 ans. Donc, je vous invite à commencer à le regarder dès maintenant parce que ça va durer un peu et je vous dis, vers la fin, c'est un peu ennuyeux. Comment les gens travaillent là-dessus? Atlas, CMS, c'est tous des collaborations d'à peu près 3000 à 4000 physiciens de 200 laboratoires de 40 pays. Le soleil ne se couche jamais sur une de ces collaborations. Vous pouvez être sûr que quand vous allez arrêter de travailler, c'est quelqu'un d'autre qui avance pendant ce temps-là. C'est donc des collaborations mondiales. Ils ont construit à peu près 80% de ces détecteurs. Les autres 20% étaient construits par le CERN même. La construction de ces détecteurs, c'est des processus de convergence technique extrêmement complexes parce que vous avez les premières idées des R&D divergentes dans les différents laboratoires. Il faut ensuite se mettre d'accord quelle est la technique la plus prometteuse. Commencer à réunir tous les gens derrière le projet sélectionné pour collaborer et construire les appareillages ensemble. C'est des efforts assez importants au niveau de la gestion, du suivi et de l'intégration de ces projets parce que vous recevez effectivement les parties de tous ces laboratoires et vous devez les mettre ensemble pour que ça marche et que ça, même que ça fit ensemble. Comment c'est possible de travailler de cette manière? Parce que, bien sûr, vous avez un chef de projet qui est dans un laboratoire aux États-Unis. Vous travaillez en Serbie. Hiérarchiquement, il n'a rien à vous dire. Ben, la base de cette collaboration, c'est vraiment le but commun, la compétence des leaders et aussi, bien sûr, votre réputation de vouloir fournir quelque chose qui marche et qui est utile. Les contributions à ces détecteurs sont fournies en généralement sur une base de best effort. Chaque laboratoire essaie de faire au mieux. Et bien sûr, derrière, il y a des considérations de faire cher, c'est-à-dire vous avez 200 physiciens qui vont travailler dans une collaboration de 3000 personnes. Ben, il faut que votre contribution soit à peu près en relation avec. Les accords de collaboration sont généralement des documents, mais qui ne sont pas juridiquement contraignants. Je pense que c'est aussi quelque chose à mentionner dans ce contexte, parce qu'aujourd'hui, où effectivement on a des juristes partout, c'est assez incroyable de travailler juste sur des considérations. Bah, écoutez, on va essayer de faire au mieux et on va s'entraider pour que ça marche. Donc tout cela a mené à la découverte du boson de Higgs, ce qui était le 4 juillet 2012, et je pense que les physiciens de particules se souviennent tous, « Ah, moi, à l'époque, j'y étais ici et là, etc. » Moi, j'avais ma fille de 6 mois sur les genoux et on regardait sur mon ordinateur ensemble le séminaire transmis. La couverture médiatique était assez exceptionnelle de cet événement et on peut la qualifier, je pense, d'innovante. Et voilà donc ce qui était le boson de Higgs. Atlas et CMS ont montré ces deux distributions qui dévoilaient l'existence du boson de Higgs. Et qu'est-ce que c'est donc ce boson de Higgs ? Le boson de Higgs, c'est comme un champ de Higgs, un champ uniforme partout dans l'univers, qui fait que quand les particules qui ont une masse qui le traverse interagissent à différentes forces avec ce champ et acquièrent de cette manière-là des masses différentes. On m'a juste fait signe que je parle trop lentement et bon, je m'en excuse. On peut dire maintenant, on a découvert cette particule, on va s'arrêter là. Une fois qu'elle est découverte, c'est le travail fastidieux de comprendre ses propriétés qui doit commencer. Et donc, depuis, on a vérifié que cette particule a effectivement les propriétés quantiques qu'on attend. On a mesuré sa masse, les couplages avec les autres particules. Et on a vu que toutes ces propriétés sont en accord avec les précisions à peu près 10% près. Maintenant, si on cherche une nouvelle physique, il faut que cette précision soit en dessous du pourcent pour voir les effets d'une nouvelle physique. Et ça, c'est justement ce qu'on va faire dans les années à venir. Bien sûr, il y a d'autres questions ouvertes qu'on essaie de traiter au LHC. La matière noire, dont vous avez certainement entendu parler, je ne vais pas m'attarder pour gagner un peu de temps. La question de l'antimatière. On se demande toujours pourquoi nous existons. Au début du Big Bang, il y avait à peu près autant de matière que d'antimatière. Il doit donc avoir une infime différence entre les deux pour que la matière a prévalu dans notre univers, mais on ne la comprend toujours pas aujourd'hui. La question de l'évolution de l'univers. On sait qu'au début de l'univers, il y avait une phase de l'inflation, de son expansion, mais il faut pour cela un champ scalaire, tel que le champ du boson de Higgs, mais si on met les propriétés du champ du boson de Higgs dans les modèles, on est à une extension de 10 puissance 118 fois trop rapide. Donc ça ne peut pas être le boson de Higgs tel qu'on le connaît aujourd'hui. En plus, l'expansion de l'univers s'accélère. Ceci est dû à ce qu'on appelle aujourd'hui une énergie noire liée à la constante cosmologique d'Einstein, mais on ne comprend pas ce que c'est cette énergie noire. Pour étudier toutes ces questions, Enrico Fermi, en 1954, a imaginé un accélérateur d'une énergie à peu près de 100 TeV. Dans son idée, il devait faire le tour du monde. Être construit en 1994 et coûter à peu près 170 millions de dollars. Bon, depuis, on a fait quelques progrès. Donc, pour atteindre une machine de cet ordre-là, il faudra un collisionneur d'une centaine de kilomètres. Qu'on étudie actuellement au CERN pour éventuellement le construire. Il y a aussi d'autres projets, bien sûr, d'accélérateurs au CERN pour mesurer justement en détail les propriétés du boson de Higgs, notamment un collisionneur linéaire d'une cinquantaine de kilomètres, et les deux projets sont actuellement discutés pour les comparer. Il y a d'autres développements technologiques. Il y a des verrous à ces machines-là qu'il faut résoudre, notamment des aimants supraconducteurs à très haut champ, à 16, à 20 Tesla, qui peuvent être obtenus avec des matériaux supraconducteurs à haute température, mais pour l'instant, on ne maîtrise pas ces matériaux pour en faire vraiment des aimants et des bobines. Il y a bien sûr un grand intérêt industriel et sociétal à développer de tels aimants. Il y a aussi des nouveaux concepts d'accélérateurs, des accélérateurs à muons, des accélérateurs LASA plasma, dont vous avez peut-être entendu parler. Quels sont les défis de tout ça ? Le coût d'un nouveau collisionneur dépassera clairement le budget du CERN, et il faudra donc le concevoir vraiment comme une infrastructure globale. Avoir éventuellement des financements publics, si oui, comment, et avec quelle gouvernance pour ce type de machine ? Ensuite, la recherche fondamentale est motivée aujourd'hui par les questions scientifiques. L'innovation est essentielle, mais ce n'est pas le but. Or, il y a quand même une tendance aujourd'hui à mettre l'accent sur l'innovation seulement. Et c'est pour ça que je vous ai mis là-bas l'image de la nouvelle Commission européenne, où on ne parle plus de recherche, mais d'innovation. Est-ce qu'il y aura donc une motivation suffisante des gouvernements pour soutenir une telle entreprise ? Les temps pour ce type de recherche est long. Et donc, il faut des engagements à long terme. Des structures coordonnées et stables sont donc essentielles. Et ça, c'est aussi un point important. On a vu des projets, notamment aux États-Unis, être annulés parce que le Congrès, une année, a coupé les crédits. Un autre point important, c'est la maîtrise de l'impact environnemental. On travaille beaucoup en ce moment sur l'efficacité énergétique, les idées d'achat durable pour les matériaux dont on a besoin, l'utilisation des gaz à effet de serre dans les systèmes de refroidissement et ainsi de suite. Je vous ai mis une autre boutade, c'est bien sûr le trou noir dont on a beaucoup discuté avant le démarrage du LHC. Il faut bien sûr aussi une acceptation sociétale pour ce type de recherche. Des scénarios possibles, voici de quoi on discute. Bien sûr, le CERN n'est pas le seul endroit où on imagine de construire des nouveaux accélérateurs. Il y a le Japon, où on réfléchit sur une machine linéaire. Il y a la Chine, qui réfléchit aussi à un accélérateur circulaire d'une centaine de kilomètres, et différentes compositions de projets au CERN. Vous voyez les échelles en temps. Certaines projections vont à des machines qui finiront de prendre des données en 2090. Je pense que c'est nos petits-enfants ou petits-petits-enfants qui vont peut-être finir leur thèse sur ces machines-là. Mes conclusions, ce qui était déjà dit ce matin et hier soir, c'est que le progrès scientifique et le progrès technologique vont main dans la main. Au CERN, l'innovation se fait, entre autres, grâce à l'excellence, je pense, des gens, et une excellence qui surtout valorise l'initiative personnelle. Vous êtes dans une grande structure de 3000 personnes. Bien sûr, il y a des process définis, mais vous ne faites pas de l'innovation si vous dites juste à votre collègue « Écoute, moi, j'ai coché toutes les petites cases, c'est bon, c'est plus mon problème. » L'innovation se fait parce que les gens sont impliqués et motivés. Ensuite, bien sûr, l'écosystème qu'il y a entre le monde de la recherche et l'industrie et des intérêts partagés sont primordiaux. Quelque chose qui est cher au CERN, c'est bien sûr de ne pas que faire du transfert de technologies au CERN avec des industriels qu'on connaît déjà, mais de favoriser l'émergence de transferts de connaissances dans tous les États membres. Et vous imaginez le challenge, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, c'est des pays hautement développés, de favoriser aussi un transfert de connaissances dans des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, etc., c'est important pour que l'Europe commence vraiment à devenir un ensemble cohérent. Les grands projets tels que les LHC sont bien sûr à la fois un moteur dans l'innovation, mais ils peuvent aussi être un frein. Lorsque leur opération devient tellement lourde qu'ils prennent toutes les ressources, on n'a plus de place pour permettre justement l'espace de créativité nécessaire à l'innovation. Et c'est pour ça qu'il est très important de continuellement réfléchir comment libérer les espaces, les marges, les nouvelles idées, les nouveaux types de collaboration qui permettent l'émergence de l'innovation. Merci.